On comprend un amour tout entier en s'allongeant près de lui dans la nuit. Souffle à peine, main dans la main, hanche contre ciel, le grand mystère de la mort, accoudé à la fenêtre, nous regarde, surpris et troublé. Poème de Jean-Pierre Siméon, dans un recueil à l'intérieur de la nuit, avec des images de Yann Bagot, aux éditions Chêne. Jean-Pierre Siméon, nous allons avoir le grand plaisir, le grand honneur, de passer une heure en sa compagnie. Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour, bonjour cher ami.
Et merci beaucoup d'être présent au rendez-vous. Et d'être encore une fois donc le familier maintenant de cette émission Les Poètes sur Radio Occitanie. Jean-Pierre Siméon, Pierre Everdy disait « Le réel est par sa présence tueur de poésie, par son absence source de poésie. La poésie, c'est le bouche abîme du réel désiré qui manque. » Voilà. Ça peut être une introduction à ton livre excellent, excellent livre qui, j'espère, sera distribué au moins dans toute... Il faut que la jeunesse ait ce livre, Petit éloge de la poésie de Jean-Pierre Siméon. C'est dans la collection Folio, ça vaut 2 euros. Il faut absolument que ce livre ait une diffusion vraiment universelle, énorme, de manière à ce que notre jeunesse sache enfin ce qu'est vraiment la poésie. Alors Jean-Pierre Siméon, en deux mots, je vais te présenter très rapidement. Jean-Pierre Siméon, tu es né en 1950, donc appartient à cette génération juste d'après-guerre, agrégé de lettres. Tu as quelques temps un petit peu enseigné, en particulier à Clermont-Ferrand. Et puis très vite, tu t'es dirigé vers tes œuvres, je dirais. Alors tes œuvres qui sont... D'abord, une œuvre de dramaturge important, puisque tu as travaillé dans l'esprit de Jean Villard, hein, et d'ailleurs tout ton théâtre. Et là, j'ai relu hier « La mort n'est que la mort si l'amour lui survit » et l'histoire d'Orphée. On en parlera un petit peu, si tu veux bien, de l'orphisme dans cette émission, puisque tu fais référence également dans... ton dernier livre, Une théorie de l'amour, et puis La boîte, suivie de Femme en face d'un homme silencieux aussi, où l'on retrouve cette verve poétique qui t'anime, qui est ta signature, et qui est notre chance et notre régal à nous, lecteurs et amateurs de poésie. Donc, tu as dirigé les éditions Chêne. Tu as été également le directeur du printemps des poètes. Et depuis 2019, je crois, ou 2018, je ne me souviens pas, tu es...
2018,
voilà, tu es directeur des éditions Poésie, donc de la collection Poésie aux éditions Gallimard. Voilà. Alors tu as une œuvre qui est une œuvre quand même considérable. Des fois, je me demande comment tu fais pour trouver tout le temps d'écrire tout cela en ayant quand même de fortes activités aussi à côté. Une œuvre donc de roman, et roman même pour la jeunesse, hein, d'ailleurs à l'intérieur de la nuit peut être considéré comme un livre pour la jeunesse. Hein. Moi je vais l'offrir à mon petit-fils, hein, par exemple.
Oui.
Là, je crois qu'il rentre en sixième, là, c'est parfait pour lui. Oui. Pour vraiment lui faire comprendre ce qu'est la poésie et la langue. Voilà. Alors tu viens de publier. Tu as eu tous les prix de poésie, hein, le prix Artaud, le prix Apollinaire.
Oui, peu importe.
Bon, voilà. Bon, tu es donc, comment dirais-je, une figure mythique de la poésie du 20e et 21e siècle. Alors, on va parler essentiellement, si tu le veux bien, aujourd'hui, de deux de tes livres, les publications, parmi les publications les plus récentes. C'est d'abord... On ne peut pas le passer sous silence, le petit éloge de la poésie, qui fait suite un petit peu à La poésie sauvera le monde. Oui. Et puis, ton magnifique, recueil de poèmes, livre de poèmes, paru chez Gallimard, dans la collection Blanche, Une théorie de l'amour. Alors ça aussi, c'est un livre à offrir, un très beau livre. En plus, il ne coûte que 12 euros. Hein. Vraiment, il n'y a aucune raison de ne pas offrir ce livre à son aimé. Alors là, comment dirais-je, j'ai récemment fait un petit éditorial sur Oscar Hahn, qui a écrit Mal de Amor, hein, Mal d'amour. Et ça fait du bien de passer un petit peu de cette poésie de passion, de cette poésie aussi où il y a quand même des interrogations un petit peu en suspens. Et cette théorie de l'amour, ces poèmes qui sont des poèmes d'équilibre, qui sont des poèmes d'une harmonie extraordinaire. Mais on va en parler. Alors, on va commencer, si tu veux bien, par le petit éloge de la poésie.
Oui, très bien.
Donc
oui.
La poésie, c'est le lieu du... Alors, on va partir sur deux. D'abord sur le réel, hein, puisque Pierre Réverdi, là, que je cite... je pense que tu vas réagir à ça, puisqu'il dit que le réel est tueur de poésie. Bon, on va voir ce que... Mais il dit, attention, par son absence, source de poésie. Bon.
Oui. Voilà. Oui, ben, la question, Christian, la question, évidemment, est piégée, parce que tout dépend de ce qu'on entend par réel. Et quand Reverdy dit le réel est tueur de la poésie, ce qu'il veut dire, c'est la part du réel qui nous occupe, celle qui saute aux yeux, celle qui est faite des mécanismes de surface, on va dire, des rôles, des fonctions, de tout ce qui nous oblige, ce réel immédiat, on va dire, qui est celui qui nous emprisonne, qui nous a servi, en fait, à ses demandes. Et évidemment que Reverdy, comme moi-même et comme tous les poètes, nous savons que, et c'est la raison même de la poésie, qu'il y a une autre part du réel, qui est la part, justement, on pourrait dire, humiliée, oubliée, cachée, repoussée, qui est la profondeur du réel. Et c'est celle-là, cette part oubliée du réel, cette part absente, alors on va dire, cette part manquante du réel. Je veux dire absente et manquante dans nos vies. C'est cette part-là que la poésie révèle. Et là, je pense que ça rentre dans le sens de ce que disait Reverdy, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que la poésie, elle est ce qui nous permet de rendre à la réalité sa vérité, sa pleine présence, et son extraordinaire capacité de vie, au fond, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que plus nous sommes asservis au réel immédiat, encore une fois, à ses demandes, à ses besoins, à ses nécessités, les rôles, les fonctions sociales, etc., etc., nos besoins immédiats du jour, plus nous sommes asservis à ça, plus nous perdons, en fait, l'autre part du réel, qui est la seule qui compte pour nous tous, au fond. Cette part du réel intérieur, d'abord, de notre profondeur intime, n'est-ce pas ? Et cette part du réel immense, qui dépasse les nécessités immédiates. Et donc, la poésie, comme elle nous restitue cette grande ouverture, Rilke disait le poème c'est l'ouvert, c'est la tentative vers l'ouvert. Quand la poésie nous restitue cette grande ouverture vers un réel reconsidéré, alors elle nous ouvre l'espérance au fond, n'est-ce pas la poésie ? Parce qu'elle nous dit mais il y a autre chose que ce à quoi vous êtes assigné tous les jours, ce à quoi vous êtes asservi par le besoin et la nécessité. Et cette autre chose, c'est là où notre vie est pleine et entière. Et ben par exemple c'est l'amour, n'est-ce pas ? Et c'est par exemple la promenade dans le paysage, c'est notre sentiment d'infini quand nous sommes devant la fenêtre le matin, n'est-ce pas ? C'est tout ce qui fait que nous retrouvons confiance dans l'existence quand on est justement libéré de ce qui d'habitude nous tient enfermés, vraiment enfermés. Voilà, la poésie libère de cette façon-là. Voilà ce que je peux dire à propos du réel. Hein. Dans mon essai, Le petit éloge de la poésie, je ne cesse de rappeler que la poésie justement... Et si elle part du réel immédiat, ça arrive, c'est souvent le cas, le poème parle du réel immédiat. Par exemple, Victor Hugo, dans « Demain dès l'aube », il parle d'un fait immédiat de sa vie, il va sur la tombe de sa fille, voilà, qui est morte l'année d'avant. C'est un fait banal, on va dire, hélas banal, et tragique, mais quotidien pour beaucoup d'entre nous. Mais ce qui fait la poésie, c'est qu'il excède cette sorte de récit immédiat, pour nous faire entendre à tous l'immensité d'une solitude humaine, je veux dire ontologique, que nous portons tous en nous, et en même temps cette communion avec la nature qui le sauve de cette solitude, et cet appel vers l'ouvert, puisqu'à la fin c'est les voiles des bateaux sur la mer à Honfleur, c'est-à-dire qu'il y a encore une vie qui attend, malgré le fait qu'il va sur la tombe de sa fille. Voilà en quelques mots ce que je peux dire sur cette apologie d'une réalité transfigurée que représente le poème. Et ça parle à tout le monde. Je crois que ça parle à tout le monde, parce qu'il suffit de lire un poème pour que quelque chose s'ouvre en nous, n'est-ce pas? Et c'est ça que je veux dire, c'est que ce qui s'ouvre en nous, c'est cette sensation, cette intuition, c'est pas une compréhension intellectuelle, c'est immédiat, cette sensation que le réel est vivant et multiple, que ça vibre, que c'est incandescent, qu'il y a mille sollicitations du grand et vaste monde, et du vaste monde qui est chacun d'entre nous en face de l'autre. Voilà, en quelques mots, Christian.
C'est ce que disait Hölderlin déjà, hein, l'homme habite poétiquement sur cette terre. Si on habite poétiquement sur cette terre, la réalité est transcendée aussi.
Mais voilà, la question c'est que c'est un vœu, en fait, que l'homme habite poétiquement sur la terre. Hélas, je le dis d'ailleurs dans cet essai, oui. Je crois qu'hélas, et je l'avais dit dans la poésie sauvera le monde, l'homme n'a pas habité poétiquement la terre. On en voit les conséquences aujourd'hui. Il a souvent habité la terre anti-poétiquement, justement dans un asservissement au réel immédiat, au profit, aux besoins, au pouvoir, à l'avoir, au paraître. Ça, c'est les formes du réel immédiat, celui qui emprisonne. Et comme l'humanité a souvent organisé son système social, la pensée économique, on va dire, autour de ces fausses valeurs que sont l'avoir et le pouvoir, en disant c'est là que se situe l'intérêt de la vie, alors que c'est le contraire, évidemment. Alors comme l'homme a servi dans son histoire, je parle de toutes les sociétés humaines, et je dirais même de toutes les civilisations, voilà ce que je crois. Depuis toujours, elles ont organisé leur chemin, leur but, oui, leur vision du monde, à partir de ces totems que sont l'avoir et le pouvoir. Ce qui engendre toutes les questions après de violence, etc. Eh bien, comme le chemin de l'homme a été asservi à ça, il va dans le mur. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On s'aperçoit qu'on a mal pris les choses. On a mal pensé notre rapport à la réalité. On l'a mal vécu. Et donc, le réel se venge. Voilà. C'est-à-dire, c'est la question, évidemment, écologique. Mais les poètes, depuis toujours... Tu parlais d'Orphée tout à l'heure, depuis toujours, disent qu'il y a un autre rapport à la nature, par exemple, à notre environnement, qu'il soit cosmique ou immédiat, un autre rapport qu'un rapport de domination. Nous sommes des dominants, nous n'avons cessé d'être prédateurs, on l'a dit, n'est-ce pas? Des gens qui utilisent les choses qui les entourent et dans lesquelles ils sont une chose parmi les autres, en fait, ils n'ont cessé d'utiliser ça à leur propre profit, et forcément au détriment de leur environnement, en le détruisant pour se nourrir, en quelque sorte, hein, ou pour construire, ou pour se bâtir, ou pour édifier des sociétés. Eh bien, cette logique-là était mortifère. Et on s'en aperçoit un peu tard. Hein. Alors maintenant, on est en train de paniquer. Voilà ce que je peux dire là-dessus.
On est dans une époque où l'avoir a complètement écrasé l'être. Hein. C'est oui. Dans une époque où le nom même de l'être, celui du sens et de l'essence, sont devenus en définitive des objets de répulsion, presque de dérision, et finalement d'une étrange amnésie. C'est Stala Stettier qui disait « La poésie est l'incendie des aspects ». Et ça veut dire qu'il ose dire que seule une poésie qui prend appui sur les grandes interrogations fondamentales, hein, est susceptible d'éclairer la condition des hommes et de nous prémunir contre ces maladies mortelles dont tu parlais, hein, et que nous vivons actuellement, hein, et que sont les certitudes sans horizon que nous avons maintenant, ces cynismes affamés, ces divertissements de littérateurs enfilant des perles d'insignifiance, hein, parce qu'il y a ça aussi, oui. Quand même, hein, hein, ou l'abandon blasé à l'esclavage immédiat, qui est un peu ce que l'on vit tous les jours. Alors, contre ça, et dans ton... un éloge, dans ton petit éloge de la poésie, à mon avis, ce n'est pas un petit éloge, mais un grand éloge hein, de la poésie, tu dis que la poésie, c'est le lieu d'une liberté sans limite. Voilà, l'acte de poésie. Donc, ce n'est pas un jeu, hein, parce que souvent, je pense que toi, tu entends ça, mais alors moi, je l'entends combien de fois. Ah, hein, oh, ben lui, Christian, ouf, son poète, alors voilà, c'est ça. Hein. Donc, c'est quelqu'un d'éthéré, dont on ne peut rien demander, parce qu'il n'est pas sur cette planète. Hein. Alors toi tu dis l'acte de poésie c'est pas un jeu parce qu'on voit aussi la poésie comme un ornement etc. Il y a les académismes pour ça hein. Ouais. Mais d'un enjeu crucial pas un jeu mais d'un enjeu crucial sine qua non voilà. Et tu dis que la poésie est en perpétuelle métamorphose voilà.
En fait Christian dans ce livre là comme dans la poésie sauvera le monde justement j'essaie de resituer les choses. Il y a tellement de malentendus sur le mot poésie. Tu viens d'en donner l'exemple. Moi aussi, j'ai entendu souvent, ah, c'est un poète, c'est un rêveur, etc., etc. C'est une idée très fausse qui malheureusement est très inscrite dans l'inconscient populaire et général, n'est-ce pas? C'est que les poètes sont hors du monde, les poètes sont dans ailleurs, qu'ils n'ont pas à voir avec justement le réel et la réalité. Or, c'est tout le contraire. J'essaie de dire que la poésie, c'est au contraire un engagement, je voudrais dire un engagement formidable, entier, dans la réalité, dans la pleine réalité. Les poètes sont ceux, justement, qui s'en tiennent pas à un tout petit usage mesquin et égoïste du réel. Ce sont ceux qui ont un amour éperdu de la réalité dans toutes ses dimensions, sensuelle, spirituelle, etc. Les poètes ne partagent pas le réel en petits bouts comme le fait la science, par exemple, n'est-ce pas, ou le discours savant. Les poètes prennent le réel dans son entier. Ils étreignent le monde. Ils étreignent la réalité dans tout, justement, je disais, dans toutes ses composantes. Et donc, c'est eux qui nous donnent le vrai diapason d'une vie accomplie, n'est-ce pas? Une vie accomplie, c'est pas une vie qui se signale par ce qu'elle a accumulé de biens, n'est-ce pas? Ou de notoriété, de richesses diverses, etc. Évidemment que non. Les vies les plus pauvres, parfois, les plus dénuées, les taoïstes l'ont montré, ou Saint François d'Assise, enfin d'autres, n'est-ce pas? La vie la plus dénuée est souvent la plus poétique et la plus profondément accompli, justement. C'est-à-dire celle qui se donne le monde et qui ne possède rien en soi, mais qui a le partage de la vie dans tous ses états, dans toutes ses beautés, dans ses tragédies aussi, dans sa violence. Les poètes ne partagent pas les choses, évidemment. Mais ils sont pas obnubilés comme on l'est aujourd'hui dans la littérature courante, par le malheur, le désastre, tout ce qui est, on va dire, la tragédie quotidienne du rapport à l'autre, etc., etc. Ça existe, évidemment, et les poètes ont toujours fait entendre la mort, la souffrance, la douleur, la solitude. Mais la poésie a toujours fait entendre, parce que justement elle veut la réalité dans toute sa plénitude, ils ont toujours fait entendre, même les poètes les plus graves. Ce que j'appelais l'ouvert, c'est-à-dire aussi le désir, l'incandescence, le possible du sens, l'avenir possible. Giono disait bien, le poète doit être un professeur d'espérance. Il est professeur d'espérance parce qu'il ne dit pas le réel dans sa seule dimension étroitement tragique. Même chez des poètes du tragique. Je ne sais pas, comme par exemple, on pourrait dire Agrippa d'Aubigné quand il parle des grands massacres de les guerres de religion, ou Paul Celan quand il parle des camps de concentration. Même quand ils disent sans ménagement et avec une grande lucidité le tragique du monde et de l'humain, il y a, par le fait même qu'ils écrivent de la poésie, qu'ils fassent confiance à la langue, par ce seul fait-là, ils donnent importance et justesse à la parole. Et quand on parle à l'autre, on a encore l'espoir de dépasser ce qu'on est, de ce qu'on a vécu, sa tragédie, etc. C'est-à-dire que c'est toujours par la parole adressée que le poète fait un vœu de confiance dans l'humain et dans l'avenir aussi, d'une certaine façon. Voilà ce que je pense, en tout cas, Christian.
Comme tu es un dramaturge, tu fais référence à Laurent Terzieff, avec lequel tu as travaillé.
Oui.
Et tu reprends une phrase de Laurent Terzieff à propos du théâtre et tu l'appliques à la poésie en disant « La poésie, elle n'est pas ceci ou cela, elle est ceci et cela. »
Oui, C'est très important, ça, dans ma propre conception de la poésie. La poésie, évidemment, c'est d'abord, pour nous tous, la première expérience qu'on peut en faire, c'est dans le poème. Mais il y a 1 000 milliards de poèmes sur Terre, comme disait Queneau. Il y a toujours eu des poètes, dans toutes les époques, dans tous les lieux. Il n'y a pas une civilisation, même orale, les primitives, où il n'y ait pas des poètes. Parce que c'est une parole première et essentielle. Et je crois que c'est ça qu'il faut entendre, c'est que la poésie, c'est d'abord tous les possibles de la langue. Tu disais tout à l'heure, la poésie est en perpétuelle métamorphose, enfin je l'ai écrit, mais c'est vrai. La poésie, c'est pas un tel ou un tel, c'est pas Ronsard ou Baudelaire, ou pourquoi pas, je sais pas, moi, Lao Tzu ou Neruda. C'est ça, bien sûr. Ce sont à chaque fois de grandes poésies, mais c'est aussi des poésies qui sont dans des tenues, des formes, des partis pris inverses. La poésie, elle cherche tous les possibles de la langue, elle cherche à scruter l'infini du réel en inventant dans la langue. Et donc, la poésie, c'est le nom de toutes les recherches humaines, depuis tous les temps, dans tous les lieux, toutes les recherches humaines pour dire plus que la langue ordinaire ne nous fait dire du monde, pour dire plus pleinement notre vie et le monde que nous habitons. Voilà, donc, il faut, pour ma part, je crois que quand on parle de la poésie, il faut entendre tous les poèmes, pas un tel ou un tel, pas telle poésie ou telle autre. Moi, je me nourris depuis toujours de poésies si différentes, dans leur forme, dans leur ton. C'est autant la poésie classique, la poésie la plus ancienne que la poésie la plus récente. Tout ça, c'est le même travail, c'est le même labeur des hommes pour inventer la langue qui dit plus vraiment, plus justement la réalité et nos raisons de vivre et nos raisons d'espérer. Moi, voilà ce que je crois de la poésie.
Tu fais référence dans ton livre à Georges Aldas. Alors, Georges Aldas, hein, on rappelle qu'il est, il est né à Genève en 1917. C'est un poète, un essayiste, un scénariste, un critique littéraire. Et comme il a fait ses carnets, je les ai sous les yeux, là, l'état de poésie, c'est les carnets de 1979, hein, qui n'ont jamais quitté ma bibliothèque depuis la parution. Et dit ceci: fidèle à l'état de poésie, et ne pouvant faire autrement, c'est l'intemporel qui est ta patrie, d'où ton malaise et des difficultés de tous ordres dans la vie de tous les jours. Ton incapacité également sur le plan romanesque, une histoire comme l'histoire n'existe pas pour toi. Pour les êtres, tu ne les saisis qu'en leur centre, la concrétion en leur centre comme un diamant. Voilà. Et je crois que tu peux abonder évidemment dans cette assertion, cette affirmation de Georges Aldas dans ce livre, qui est un livre important, hein, pour tous les amateurs de poésie, l'état de poésie.
Oui, enfin, moi j'admire évidemment beaucoup Georges Aldas. Ce que tu as dit, ce que tu as lu de ce qu'il dit, va plus loin même que la formule que j'ai utilisée, que je lui ai empruntée, oui. C'est le titre d'un de ses livres. Effectivement, la question, elle est d'abord de postuler que nous vivons, nous, hors de l'état de poésie, et qu'il faut tenter de rejoindre l'état de poésie dont il dit en quoi il tient, au fond. Être en état de poésie, ça ne veut pas dire forcément écrire des poèmes, on est bien d'accord. C'est un type de rapport particulier à la réalité. Un rapport dont on a dit, ou j'ai dit tout à l'heure, qu'il était particulièrement attentif, particulièrement gourmand du réel, et particulièrement exigeant dans la saisie de la réalité, dans la compréhension de la réalité. C'est-à-dire qu'il ne s'en tient pas aux formes et aux apparences, et qu'il essaie d'aller au-delà. Et donc, moi je crois profondément qu'il faudrait et c'est le vœu de tous les poètes, que nous nous efforcions de rejoindre le plus souvent possible dans notre existence, et c'est pas possible tout le temps évidemment, l'état de poésie, cet état éveillé de la conscience, je pourrais dire suréveillé de la conscience, qui nous livre le monde justement au-delà, comme je l'ai dit, de ses apparences. Alors ça, c'est un défi pour chacun. Le poème n'est, quel que soit le poème d'ailleurs, on parlait de ceci et de cela, quel que soit son propos en même temps, peu importe. Le poème, c'est ce qui, le, j'allais dire, le moyen, le tremplin, le chemin qui nous mène vers cet état de poésie, qui nous fait renouer avec l'état de poésie dont nous sommes tous capables, dont nous avons tous en nous le talent, mais que la vie de tous les jours, les obligations quotidiennes nous font perdre. Donc, lire un poème, qui, c'est ça, souvent on éprouve une émotion quand on lit un poème, et cette émotion c'est simplement, à mon avis, le signe, le symptôme de que nous sommes en train de renouer avec cet état de poésie latent en nous et que nous avions perdu et que nous rejoignons. Et cet état de poésie, il est exaltant, parce que justement, il nous fait ressentir combien nous pouvons, nous avons tous la capacité à nous hausser, je peux dire, au-dessus de nous-mêmes. Voilà, à être au sommet de soi, en quelque sorte. Et c'est quand on est au sommet de soi qu'on voit plus loin que soi, et qu'on voit l'autre dans son immensité, l'autre avec un grand A, si vous voulez.
Madame de Staël écrivait déjà d'Allemagne, hein. La poésie est une possession momentanée de tout ce que notre âme souhaite.
Oui.
Une formule extraordinaire. Hein, une phrase. Bon. Oui. Possession momentanée de tout ce que notre âme souhaite. C'est dire à quel point la poésie peut être exaltante, avoir des moments de gros vertige.
Oui. Oui, absolument. Je pense d'ailleurs que tout le monde rencontre la poésie dans une émotion.
Oui.
Soit qu'il a entendu un poème, même un vers d'un poème, soit qu'il a rencontré un poème par hasard, qu'il ait lu ou qu'on lui ait lu, enfin peu importe. Et il y a quelque chose dont je parlais tout à l'heure qui est de l'ordre de la commotion. Tout d'un coup, ça nous saisit.
Oui, tu dis la poésie est une émeute.
Oui, je crois, une émeute du sang, c'est une émeute en nous. Hein. Et émeute qui veut dire, vous rappelez, je l'ai écrit dans le bouquin aussi, oui. Ça veut dire émotion en fait, émeute, hein, c'est le même mot. Oui. Autrefois, au lieu de dire il y a une émeute dans la rue, on disait il y a une émotion populaire. Donc c'est bien le même mot. Et oui, et c'est ça, cette émeute, ce vertige, ce sentiment que tout d'un coup on renoue avec le plein de la vie. C'est la même chose que l'ivresse de l'amour. C'est la même chose aussi que le vertige qui nous prend devant la mort, devant la perte de ce qu'on aime, devant les grands effrois, justement. Eh bien, quand on touche comme ça au point extrême de la vie, alors on ressent cette extraordinaire émotion, cette émeute en nous. C'est-à-dire que, justement, on reprend conscience de l'intensité de l'existence, de l'intensité de la vie et de sa fragilité devant la perte et devant la mort, en fait. Et je crois que tout poème nous fait entendre ça. C'est le diapason du prix de la vie. C'est ça qui à la fois nous rend heureux et crée en nous une nostalgie, une mélancolie.
D'où la gravité de la poésie.
Peut-être de ne pas toujours être à la hauteur de la vie.
Oui.
De perdre ce qui nous est donné, au fond. Parce qu'il faut faire effort pour renouer sans cesse avec le prix de l'existence, oui. L'or de l'existence, l'or du temps, disait André Breton, oui. Par exemple.
Ce qui fait que la poésie est grave, et c'est peut-être aussi cette gravité qui éloigne aussi un certain public qui cherche plus de facilité.
Oui, c'est tout à fait vrai, Christian, mais en fait, nous fuyons pas seulement la gravité dans la poésie, nous fuyons la gravité en tout.
Oui,
et ça,
absolument.
C'est malheureusement la maladie du temps.
Parce que c'est la lucidité.
De ce temps, c'est une maladie humaine. Oui. Qu'est-ce que disait Blaise Pascal ? Tout le malheur de l'homme est de pouvoir demeurer en repos dans une chambre ou dans sa chambre. Ça veut dire qu'il ne veut pas être confronté à la gravité de l'existence. Quand on est en repos dans sa chambre seul, toutes les raisons qui nous occupent d'habitude disparaissent. Et on est seul avec soi-même et avec la pensée de soi, du monde, etc. Donc évidemment, ça nous amène tout de suite à la gravité. Parce que la vie est grave. Grave, ça ne veut pas dire, je l'ai dit dans mon essai, je voudrais le redire ici, grave, ça ne veut pas dire triste. Par exemple, dire à quelqu'un, je t'aime, c'est grave. Ah oui, mais c'est pas triste. C'est grave au sens premier du terme. Grave, ça veut dire, ça vient du latin gravis, qui veut dire qui pèse, qui a du poids. Eh bien, voilà, toutes les choses importantes de la vie sont graves. Et ça ne veut pas dire que le grave est triste. Voilà, on croit toujours que c'est ça. Et moi, je pense que nous sommes dans un monde de la futilité et de la superficialité. Je crois que c'est une pente naturelle à l'homme depuis toujours. Combattre en lui, veut dire, les deux pôles, le sentiment de la gravité de l'existence, de son prix, de son poids, etc. Et puis le besoin d'échapper à cette pensée-là par le divertissement. divertissement, qui veut dire, on sait bien, se détourner d'eux. Donc, nous sommes dans un temps plus superficiel que jamais, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, le divertissement prend toute la place. Et c'est pas par hasard. Pour moi, c'est un fait politique. Plus on divertit la plupart des gens, le plus possible de gens, plus on les détourne de la gravité de la pensée, de leur compréhension du monde, plus on en fait des êtres faciles à manœuvrer, à gouverner. On les nourrit de leurre, en quelque sorte. On les gave de leurre. Et il y en a qui en tirent profit, évidemment.
Du voilà pain et des jeux, c'est toujours à la mode.
Pardon, Christian,
j'ai pas entendu. Je dis du pain et des jeux.
Oui.
On en est toujours là.
On en est toujours là, moi je crois, bien sûr, on en est toujours là. On a dit, vous rappelez, Marx disait l'opium du peuple en parlant de la religion. Oui. Mais depuis longtemps, la religion était remplacée, ou en tout cas, sinon remplacée, s'est vue adjointe de bien d'autres opiums.
Par le divertissement, pour moi.
Le divertissement est pour moi le pire des opiums aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire qu'il est en plus bien fait, ce divertissement, puisqu'il flatte en nous un besoin de repos, un besoin de paresse, un besoin un peu naïf d'étonnement, de stupéfaction, enfin voilà, des choses qui sont naturelles, mais il flatte ça, donc on a envie de se divertir. Moi comme vous, parce que la vie quand même, les contraintes du réel premier, quand je parlais du réel immédiat, ces contraintes sont fortes et de plus en plus fortes. Quand on est sans cesse confronté à des soucis du quotidien et de l'immédiat, on a besoin d'échapper à ça. Et y échapper, c'est par le divertissement qui nous fait simplement oublier le réel. Le divertissement, c'est tout le contraire d'une compréhension du monde. C'est la fuite du monde et du réel. Alors évidemment, mais plus qu'on ait le droit légitime tous à se reposer des complications d'existence et de la gravité de la vie par le divertissement, c'est évident, on a besoin de ça, c'est humain. Mais quand 99% de notre vie est liée,
centrée là-dessus,
à donner au divertissement, alors qu'est-ce qui reste? On n'a plus aucune compréhension fine impliquée du monde. On n'est que dans des leurres, on vit dans un songe. Et aujourd'hui, beaucoup de peuples sur la Terre vivent enfermés dans des fantasmes, des chimères, qui sont tous ces bulles de divertissement par l'image, par le spectacle, etc., qui sont bien faits, qui sont séduisants, qui plaisent, évidemment, bien sûr, ça flatte, je veux dire, en nous, un besoin de ça. Donc, je comprends bien. Mais quand ça prend toute la place, c'est terrible. Ça fait, hélas, ça multiplie des esprits qui n'ont plus de conscience, qui vivent en somnambule. Le philosophe Alain le disait. On peut être agir, marcher, boire, parler, etc., et être un somnambule. C'est-à-dire, en fait, la conscience dort. La conscience est fermée.
Alors, à l'inverse, la poésie, dans ton éloge de la poésie, tu indiques bien que la poésie est un frein à la tentation totalitaire d'une lecture fermée et univoque du monde. Voilà. Et en cela, la poésie révolutionnaire par nature. On va, si tu veux bien, pour cette partie de l'émission, on va développer cela.
Oui, parce que ça c'est très 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 important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à une réalité nouvelle, au fond. C'est qu'il y a une manière de dire le monde qui est la plus partagée, la plus répandue, parce qu'elle a les moyens les plus puissants, c'est-à-dire tous les médias, on va dire, ils sont nombreux, ça va des écrans, radio, télé, images, etc. Eh bien, il y a une manière de dire le monde qui est une manière pauvre de dire le monde, qui est une manière univoque de dire le monde. Pourquoi? Parce qu'elle utilise pour parler du monde, de nos vies et de la réalité autour de nous, elle utilise le langage le plus consensuel, si je puis dire, possible, le plus simple, le plus immédiatement compréhensible. Donc, forcément, si vous dites, vous parlez de choses complexes, et qu'y a-t-il de plus complexe que nos vies, nos désirs, nos rêves, tout ça, et que le monde, il n'y a rien de plus complexe. Et si vous utilisez pour dire ça, le plus complexe qui soit, la langue la plus simple qui soit, la plus banalement simple, celle qu'on entend partout, ben forcément, vous trahissez. Forcément, c'est un mensonge. Et donc, c'est une langue, je le disais, monosémique, qui n'a un mot égal un sens, on doit la comprendre tout de suite, elle doit être immédiatement lisible. Et donc, elle ne dit que de la réalité, au fond, l'évidence première, ce qu'on en sait, que la guerre est tragique, que j'ai mal aux pieds, donc je crie aïe, enfin, voilà, Je donne des exemples un peu immédiats et simples, mais enfin, grosso modo, cette langue qui domine et qui prétend nous faire comprendre le réel, nous dire le réel, c'est la langue, par exemple, de l'information. C'est la langue aussi de tous les magazines qui nous disent, par exemple, en une page, comment il faut aimer, comment il faut vivre une rupture, comment il faut vivre la mort de l'autre qu'on aimait, ou comment, je sais pas, on nous explique, des experts très savants nous expliquent en une page, dans une langue immédiatement évidemment compréhensible, parce qu'on s'adresse à des gens dont on suppose qu'ils parlent une langue minimale, alors ils nous disent des choses qui sont forcément des simplifications. Et donc je dis qu'aujourd'hui nous avons accès à une lecture du monde par tous ces médias dont je parlais, et qui sont archi-dominants, qui parlent partout. Vous allez au bistrot, ça parle à la télé. Il y a des écrans partout, c'est écrit partout. tout ce langage simple et même, comment je pourrais dire, aplati, qui dit le monde, il est partout. Et nous avons accès au réel par ce langage-là. Et évidemment, ce que nous vivons, lui, est à l'opposé de ça. Ce que nous vivons, c'est la complexité. C'est l'immense, le besoin de sens immense. C'est la polysémie, c'est-à-dire le contraire de cette monosémie dont je parlais. Au lieu d'un mot égal un sens, nous vivons, nous, évidemment, le contraire, c'est-à-dire la multiplicité du sens. Et c'est bien pour ça que le langage ordinaire des hommes ne peut pas dire la complexité de nos vies et du monde. Et donc c'est pour ça que les poètes existent, depuis toujours. C'est que dans toutes les langues humaines, il y a celui qui a senti que le langage de tous ne pouvait pas suffire à dire la complexité du monde. Il dit ce qui est nécessaire de se dire dans la préservation immédiate de l'existence, dans nos besoins immédiats. Oui, ça suffit, un langage simple, pour dire ouvre la porte, à quelle heure tu prends le train, qu'est-ce qu'on mange ce soir. Mais il y a toujours eu des gens qui, dans une langue donnée, se sont dit, mais cette langue-là, elle ne peut pas servir pour dire, ben quoi, la réalité de l'amour, non? La réalité de la mort, la réalité de la solitude, du désir, de toutes les choses qui sont vraiment notre existence, dans leur fourmillement de sens. Alors, ces gens-là, je les appelle des poètes, ce sont ceux qui se sont emparés de la langue et qui la détournent de son objet premier, dire le réel immédiat, pour dire un autre réel, l'autre part du réel, la part manquante dont je parlais tout au début, la profondeur et la complexité du réel. Et c'est ça qu'on appelle la poésie. C'est une langue qui, dans laquelle un mot égale pas un sens, mais tous les sens possibles. Voilà pourquoi lire un poème, c'est nous ouvrir une compréhension beaucoup plus riche et fourmillante du monde, si vous voyez. Mais évidemment, ça déconcerte. Si on est habitué au langage qui domine partout, qui est un langage simpliste. Si on est habitué à lire le monde comme ça, c'est là ce qui se passe. Maintenant, on a des réflexes simples. L'autre est un étranger, il est dangereux. Celui-là, il a quelle couleur de peau, c'est un étranger, alors ce qui est évidemment pas vrai. Si on regarde sa généalogie, ça se trouve, il est plus français que celui qui a la couleur blanche. Bon, en fait, voilà. Si on s'en tient à cette lecture pauvre et restreinte du monde dans une compréhension immédiate, alors on est dans le malheur de ce temps. On ne vit plus que dans des fantasmes, dans des préjugés et des malentendus. Et la poésie nous sauve de ça. Puisque la poésie, dans son existence même, n'importe quel poème, dit « je suis une langue » qui dit non pas ce que je dis seulement, mais qui dit ce que je dis est bien au-delà. C'est-à-dire tous les sens possibles. Et ceux qui n'arrivent pas à se dire dans la langue ordinaire. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des poètes qui, au lieu de dire, par exemple, on parlera peut-être tout à l'heure de mon livre « Une théorie de l'amour », le poète, au lieu de dire, comme nous faisons tous, des banalités comme l'a fait la chanson « Tu es belle, je t'aime » ou « Je t'aimerai toujours, mon amour », des choses comme ça qui sont sympathiques, soit, mais quand même qui ne correspondent pas vraiment, avouons-le tous, à la singularité de notre expérience amoureuse à chacun, qui est beaucoup plus compliquée que ça quand même, non? Et qui s'invente en plus différemment entre chaque couple, à chaque âge. L'amour, c'est pas une chose immédiatement compréhensible, c'est la chose la plus incompréhensible, plus mystérieuse qui soit, et toujours à réinventer. Donc, évidemment, la langue ordinaire ne peut pas dire une réalité aussi complexe que l'amour avec des mots archi simples. Et c'est pour ça que les poètes, au lieu de dire « je t'aime », ils disent « à la place du ciel, je mettrai ton visage ». Ça, c'est René Kikadou. Ou Char, il dit « la renarde pose ta tête sur mes genoux, je ne suis pas heureux, et pourtant tu suffis ». Etc. Je pourrais en citer. Ou Aragon, il n'aurait fallu qu'un instant de plus pour que la mort vienne. Mais une main nue, alors, est venue, qui a pris la mienne. Vous voyez, trois exemples qui sont trois façons de dire « je t'aime » ou encore Éluard, d'une seule caresse je te fais briller de tout ton éclat. Ou Éluard qui dit encore, elle est debout sur mes paupières et ses cheveux sont dans les miens. À chaque fois, chaque imaginer, c'est une manière de dire je t'aime. C'est tellement plus ajusté à cet immense mystère de l'amour.
On va en conclure que la poésie refonde en nous l'humanité, et on va passer, si tu le veux bien, dans les quelques minutes, mais on te demandera de revenir, hein, parce que à ce livre de merveilleux là, de poèmes, Une théorie de l'amour. On pourrait l'aborder, si tu veux bien, à partir du mythe d'Orphée. Donc ça ferait un peu de la liaison avec ce livre merveilleux que tu as écrit, hein, de cette pièce de théâtre, L'amour n'est que l'amour si l'amour lui survit.
Oui.
Où tu parles du mythe d'Orphée, cet homme des deux royaumes, hein, le royaume de la vie, de la mort, alors qui est poète, philosophe, magicien, chanteur, et qui aborde la question de la finitude, puisqu'il accomplit ses passages d'aller chercher Eurydice aux enfers, grâce à la poésie lyrique, en charmant donc les divinités infernales. Hein. La poésie est investie d'un pouvoir constitutif de ce mythe, et cette poésie, elle va reculer les frontières de la vie, elle embrasse les domaines de l'inconnu, elle apprivoise le monde. Cet absolu poétique n'est pas qu'un simple exercice littéraire, c'est une manière d'appréhender la vie. Et on va trouver dans Une théorie de l'amour le même couple que on trouve dans l'orphisme, hein, ce poète divin absolu qui est exemplaire, on va trouver le couple Eros et Thanatos. Et bien sûr, là me vient ce souvenir de ce recueil qui m'avait bouleversé il y a quelques années, Lettre à la femme aimée au sujet de la mort. Hein, et il n'y avait rien de triste. Et il n'y a rien de triste non plus dans une théorie de l'amour, car l'amour n'y efface pas le prix de la vie, dont le poème trace la soif qui dure. J'avais trouvé cette impression aussi sur la mort, et de pouvoir lire les poèmes sur la mort chez notre ami Germain Sacré.
Oui.
Quand il parle de la mort de son père ou de la mort de sa fille jeune, comment il arrive par le poème, par la langue, à en parler sans qu'il y ait véritablement. Il y a cette idée de solitude, un peu, ce que disait Musset, hein, tu le cites également dans l'éloge, les chants désespérés sont les chants les plus beaux, mais il n'y a pas cet accablement. Voilà. Alors on trouve dans, je ne sais pas si je veux dire quelques mots peut-être sur l'orphisme, hein,
oui.
Parce que le poète est le témoin de cet amour, de cette beauté, hein.
Oui, effectivement, Orphée est une figure mythique, évidemment, mais c'est le premier des poètes. Et ce que tu dis, effectivement, est vraiment, je crois, la description de ce que représente la figure d'Orphée en poésie. C'est-à-dire que il y a bien d'autres traditions poétiques, mais il y a une tradition orphique de la poésie. Celle qui passe, je crois, moi d'ailleurs, par Rimbaud et Char, ou même Aragon, etc. C'est-à-dire un lyrisme, au fond, profondément. Parce que, là, quand même, il faut se rappeler que l'attribut premier d'Orphée, c'est la lyre, d'accord. Et donc, d'ailleurs, j'avais écrit dans mon livre précédent, chez Gallimard, de Levez-vous du tombeau, tout un cycle s'intitulait Les sept cordes de la lyre. C'était la lyre d'Orphée, encore.
Oui, oui, oui.
Parce que, évidemment, je veux rappeler, dans ma poésie, en quoi la poésie incarne à travers la figure d'Orphée ce type autre de rapport au monde dont je parlais, qui est un rapport au monde lucide. Orphée affronte la mort, puisqu'il descend aux enfers chercher celle qu'il aime. Et il parle sans cesse de la mort, et c'est l'arrière-plan de sa vie, Orphée, puisqu'il perd la jeune femme qu'il aime. Donc, après toute sa vie, c'est reconquérir le champ perdu, n'est-ce pas, en raison de sa confrontation à la mort. Et je crois que ça parle pour notre temps, et ça parle pour l'histoire humaine, au fond. Il s'agit toujours de reconquérir le champ perdu, les raisons du champ. Nous serions volontiers aphasiques, nous perdrions la voix devant la guerre en Ukraine, devant le malheur qui peut arriver à chacun d'entre nous quand meurt celui ou celle qu'il aime. Donc il faut sans cesse reconstruire, sans cesse reconstruire, remailler l'étoffe de la vie, si vous voulez. Et donc, je crois que la figure d'Orphée est capitale pour ça, parce que c'est une figure d'espérance dans la lucidité extrême, sans illusion, en fait, dans la compréhension lucide de notre finitude, de la mort, de la souffrance. Voilà. Ce qu'il y a de beau dans c'était la raison de mon titre, La mort n'est que la mort si l'amour lui survit. Ce qu'il y a de beau dans tout ça, c'est le thème de la survie. Mais la survie au sens, je sais plus quel poète a dit très joliment que la survie c'était pas au sens ordinaire, c'est survivre. C'est-à-dire, après le malheur, vivre davantage. Sur au sens de, vous voyez, de se surpasser en quelque sorte, hein, de vivre au-dessus, de vivre plus loin, de vivre plus intensément encore. C'est-à-dire que sans doute, c'est ce que j'avais voulu dire d'ailleurs dans la lettre aimée au sujet de la mort, c'est la confrontation à lucide et évidemment très douloureuse à la mort n'est pas l'aveu d'une défaite, c'est les moyens peut-être, mais difficiles, c'est un effort. Un labeur en soi aussi, c'est les moyens de nous proposer un chemin neuf, de revivre en quelque sorte, et donc de survivre, de vivre plus intensément, en raison même de la mort rencontrée, de la mort objectivement subie, enfin quelque sorte comme ça. Donc la poésie nous dit ça. La poésie, elle est, à travers l'image d'Orphée, elle nous dit qu'il faut sans cesse reconstruire les raisons du chant. Et il faut chanter. Voilà, le chant n'efface pas la mort, mais il fait qu'on ne se limite pas à l'aveu de la défaite, du renoncement, de l'échec, de la douleur. Bien sûr, mais, il ne faut pas raconter d'histoire. La douleur est toujours présente, mais la douleur, nous la portons toujours. Le malheur dans l'histoire humaine, il est constant. La guerre, elle n'est pas qu'aujourd'hui en Ukraine. Il y a eu quand même avant tellement de guerres, de malheurs, même très récemment. Ils étaient plus loin de nous, ces malheurs. Mais la Syrie, c'était quand même des centaines de milliers de morts et des villes rasées. Et c'est il n'y a pas longtemps. Hein. Et la Libye, et le Soudan, où il y a des milliers de morts sans arrêt. Enfin, il y a eu les Balkans, il y a eu le Rwanda. Vous voyez, ce qui se passe en Ukraine, c'est effroyable. Mais ça s'est passé dans les dernières décennies sans cesse. Donc, ce que je veux dire, c'est que la douleur et les raisons de la douleur, et donc les raisons de la tragédie sont toujours présentes et toujours pour qui veut bien les voir et les entendre. Et donc la poésie n'est pas niée par ça. C'est justement parce que les temps sont toujours des temps de détresse qu'on a besoin de poètes. Vous savez la fameuse expression « à quoi vont des poètes en temps de détresse ?» Mais on a besoin de poètes tout le temps, parce que le temps des détresses est permanent. Mais parce que la poésie, alors pourquoi on aurait besoin de ça? Parce que la poésie incarne, je le dis depuis le début, à travers Orphée, c'en est un exemple, incarne la volonté de ne pas s'en tenir là. Ce qui fait l'homme, c'est la conscience de sa mort et de la mort de la finitude, peut-être la mort de l'univers, mais compte tenu de ça, de réaffirmer, de réargumenter, si je puis dire, sans cesse les raisons de la vie, et de retrouver ça par le prestige de la vie qui est simplement intensément vécue, intensément regardée. Les merveilles abondent aussi. La beauté d'un visage d'enfant, de sourire de qui on aime, ça existe autant que la tragédie. Et la poésie, donc, c'est ce chant qui répond au silence de la mort, d'une certaine façon. Est-ce que je me fais comprendre?
Tout à fait, tout à fait. Dans une théorie de l'amour, il y a un deux vers, là. J'appelle amour ce qui subsiste de la vie dans ma fatigue. C'est un peu ce que tu viens de dire.
Oui, je crois. Oui. Je veux dire un mot, Christian, sur ce titre qui, évidemment, a surpris beaucoup de gens. Hein, c'est normal, c'était une provocation de ma part. Oui. C'était pour dire que, pour penser le monde, il ne faut pas s'abstenir d'interroger les poètes, et d'écouter les poètes. On croit qu'il y aurait d'un côté ceux qui pensent sérieusement le monde, alors tous les savants, hein, aujourd'hui les experts en tout, n'est-ce pas, qui nous donnent la vérité des choses, du réel, de la vie, des événements, ces experts qui auraient le savoir scientifique, ou en tout cas compétent, pour nous dire comment penser les choses. Et moi, je suis effaré de voir qu'on ne demande jamais aux poètes de leur pensée du monde. Or, contrairement à tout ce qu'on croit, les poètes, ce n'est pas seulement des sentimentaux. Bien sûr que le sentiment est présent dans la poésie, puisque tout est présent dans la poésie, tous les rapports au réel. Mais les poètes pensent le monde, depuis toujours. Sauf que la pensée des poètes, c'est une pensée impliquée, concrète. D'ailleurs, Louis Aragon disait, la poésie est l'état de la pensée concrète. Eh bien, c'est bien ça dont il s'agit. Les poètes pensent sensuellement le monde. Ils le pensent, bien sûr, aussi, comme tout le monde, avec des idées. Les poètes sont capables de penser dans le concept, mais ils vont beaucoup plus loin que le concept. C'est-à-dire qu'ils l'associent, ils le lient à une compréhension sensible du monde. C'est la première compréhension que nous avons tous, n'est-ce pas? On comprend le monde, je l'ai dit, c'est Orphée déjà, et c'est aussi dans l'amour, on comprend le monde par le corps. On le comprend par le baiser, par la main. La première chose que fait l'enfant, c'est embrasser les choses. Il mange tout, il porte tout à sa bouche. Et il veut tout toucher. C'est-à-dire notre propre, première compréhension du monde, elle est sensuelle. Et c'est comme ça que se constitue une pensée sensible. Nietzsche avait bien dit que le grand malheur de l'Occident, c'est d'avoir séparé une compréhension conceptuelle, par l'esprit, d'une compréhension charnelle, par le corps, d'avoir séparé les deux. Et ça aussi, la religion a beaucoup, chrétienne, en tout cas catholique, avait beaucoup contribué à cette séparation. Or, les poètes, depuis toujours, ils postulent une compréhension du monde, une saisie de la réalité, et donc une pensée de la vie et du monde, une pensée, j'allais dire, pleine, entière, complexe encore une fois, mais en même temps immédiatement accessible à tous, parce que qui passe par, non pas par le grand raisonnement conceptuel et spéculatif qui vaut bien pour les grands savants, mais une pensée du monde complexe qui passe par l'intuition, qui passe par l'expérience, c'est-à-dire ce qu'on éprouve en soi, et ce qu'on éprouve dans la langue, en écoutant le poème, dans le chant justement, dans la musique, dans la vibration, dans le rythme, dans le souffle. Il y a là tout un tas de moyens de dire la réalité qu'ignore la pensée froide et abstraite. Eh bien, en plus, les poètes utilisent l'image, c'est-à-dire que pour dire la réalité la plus complexe et pour nous aider à penser les réalités complexes de la vie, ils utilisent l'image qui nous fait comprendre par intuition, par immédiateté, sans passer par le détour de l'abstraction. Or, nous sommes dans un monde où nous comprenons le monde, nous comprenons la vie par cette langue simple dont je parlais tout à l'heure, dans la première partie de notre discours, de notre conversation, n'est-ce pas? Et cette langue simple, c'est une langue purement conceptuelle. Oui, la langue qu'on vous parle à la radio, à la télé, etc., la langue qu'on voit sur les réseaux, c'est une langue conceptuelle, de bas de gamme, mais conceptuelle, c'est-à-dire une langue qui est abstraite. Et regardez aujourd'hui comme les concepts, la langue conceptuelle remplace la langue concrète. Je le dis dans mon essai de Petit Éloge de la Poésie. Au lieu de dire une maison de Dieu, on dit
EHPAD, etc.
D'accord, au lieu de dire un banc, on dit une mobilité.
Déjà, ça avait commencé il y a longtemps. Je me souviens de ce livre, le franglais, ou le... Comment on appelait ça?
D'Étiamble.
Oui, voilà, déjà. Hein, déjà.
Ouais. Ben, c'est pas seulement une question de franglais, c'est vrai. C'est vrai que ça inclut ce que tu dis. Mais c'est même quelque chose qui s'est aggravé aujourd'hui. Oui, c'est que c'est pas seulement l'histoire de l'anglais.
L'hexagonal aussi.
On remplace une langue qui nous a été léguée avec son
histoire.
Absolument, oui, absolument. C'est voilà, une langue qui a été...
Non, c'est pas le franglais dont je voulais parler, c'est l'hexagonal.
Ah oui, voilà, oui.
L'hexagonal. Alors, je voudrais...
Je vais te demander, la langue qui nous a été léguée par nos parents et nos grands-parents et nos aïeux, cette langue qui est chargée...
Jean-Pierre, vu l'heure, je vais te demander, comme nous arrivons à la fin bientôt...
Ah oui.
Je vais te demander d'abord, je vais te redemander un rendez-vous pour parler vraiment d'une théorie de l'amour plus en détail. Et puis, je vais te demander, si tu le veux bien... De prendre ce livre, Une théorie de l'amour, à la page 67, et nous allons terminer sur la lecture de ce poème qui est à la page 67, et s'il reste un peu de temps, celui qui est à la page 69.
Alors, attends, page 67, on dit bien ?
Oui.
Je prends un livre, pardon. Alors, je vous lis ce poème.
Voilà.
Et qui s'intitule « Le haut chant des noces s'il manque », c'est ça ?
Oui, c'est absolument ça.
L'amour n'a pas d'autre lexique que celui des simples, qui dit que le ciel est un ciel, et ta main un nuage de porcelaine dans ce ciel. L'amour veut un lexique vertical, des mots debout comme ton regard, le premier debout au matin, car le soleil le demande. Des syllabes qui sonnent haut, comme les cloches du vent sur les sommets, et dont l'écho porte dans leur clarté l'ombre de Lubac. L'amour veut, dans la langue, un tintement de phonolite, un son comme un rire qui soit la plus extrême alliance entre la chair et le souffle. Le haut chant des noces, s'il manque, qui mettrait en péril la phrase amoureuse. Car la parole est comme nous. Sans le risque de l'ardeur, vent levé, elle est blanche comme la mort. Les mots qui aiment sont bâtis dans l'air. Eurydice, Eurydice, entends-tu dans ta nuit battre là-haut le cœur du soleil? Qui donc chante avec des oiseaux dans la voix? Le haut langage qu'on invente pour l'amour et pour la mort, il prend son essor toujours dans le silence qui naît au revers du cri et au chant se marie.
Voilà, Claude me fait signe que c'est l'heure. Donc Jean-Pierre Siméon, Une théorie de l'amour, poème chez NRF Gallimard, et Jean-Pierre Siméon, Petite anthologie de la poésie dans la collection Folio. Voilà. Jean-Pierre, merci beaucoup pour cette riche émission et, si tu le veux bien, nous reprendrons rendez-vous pour une émission plus profonde, donc sur une théorie de l'amour.
Très bien, merci.
À bientôt, Jean-Pierre, et encore merci.